Bonjour, M. Quirion.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très bien. Est-ce que vous étiez au courant de ces pratiques frauduleuses dans le monde, dans votre monde, le monde scientifique?
Oui, ben je pense que le monde scientifique, la très grande majorité des chercheurs sont tout à fait honnêtes. Il y a beaucoup de balises. On a différentes approches qu'on appelle de conduite responsable en recherche. La revision par les comités de pairs, là, chaque fois qu'un chercheur applique pour une subvention de recherche, il y a des comités de pairs très compétents. Les taux de succès sont du 15-20%, donc c'est très faible. Donc c'est seulement les meilleurs qui réussissent à avoir des subventions de recherche. Un peu la même chose pour les journaux crédibles. Ça existait moins il y a quelques années, là, tous ces journaux qui ont vu le jour grâce à Internet. Et il y a des compagnies qui abusent de tout ça, mais en général, les chercheurs le savent. C'est sûr qu'il faut améliorer peut-être la formation de ce côté-là de nos jeunes, des étudiants-chercheurs en particulier. Mais ces compagnies-là sont de plus en plus créatives et savent utiliser des façons de faire. Donc, il faut vraiment que les chercheurs soient à l'affût. Nous aussi, comme gouvernement, comme subvention, on donne des subventions de recherche. Il faut s'assurer que nos comités de pairs sont bien formés pour détecter tout ça. Mais c'est simple, c'est jamais simple. Et nos universités aussi doivent être à l'affût. Je pense qu'ils le sont de plus en plus. Mais encore une fois, la très grande majorité des chercheurs là, sont vraiment très, très, très honnêtes et la méthode scientifique l'impose. Parce que par la suite, on n'est pas capable de répéter les résultats d'une publication de recherche. Cette personne-là ou cette équipe-là perd beaucoup de crédibilité dans le secteur de la recherche.
Mais comment vous expliquez que près d'une centaine de scientifiques canadiens ont été punis pour malhonnêteté au cours des 5 dernières années? Moi, je trouve franchement que c'est beaucoup, là.
Ben, une centaine de chercheurs, il y a probablement près de 3000 chercheurs seulement à l'Université de Montréal. Donc, au niveau canadien, chercheur, c'est très significatif, mais ça reste une faible minorité.
Les pires cas de recherche frauduleuse que vous avez vu passer au fil du temps, là, donnez-nous deux ou trois exemples là, qui vont parler aux gens qui nous écoutent, là.
Ben, un exemple qui est très connu et qui a fait beaucoup de dommages, c'est l'autisme et la vaccination. Donc, ça, c'est un chercheur anglais qui avait publié dans une revue de très haut niveau des résultats qui suggéraient que la vaccination pouvait induire l'autisme. Et ça, c'est totalement faux, mais ça a pris des millions de dollars et 5-6 études à travers le monde pour dire ben c'est faux, cette histoire-là. Mais en dépit de ça, ça reste encore dans les journaux aujourd'hui. Et ça empêche peut-être certaines familles de faire vacciner leurs enfants. Donc ça, c'est un problème très important. Au Canada, on a eu des cas aussi à Toronto, par exemple, par rapport à certaines maladies mentales et des résultats frauduleux qui avaient été produits, mais la personne a été exclue de l'université, ne peut plus appliquer pour des fonds de recherche maintenant au Canada.
Mais qu'est-ce qui s'était passé concrètement?
Eux avaient, encore une fois, falsifié des résultats pour être plus en ligne avec leur hypothèse du point de départ. Et donc, ça s'est révélé. Lorsque l'équipe, la méthode scientifique, c'est que finalement, par la suite, lorsque ces résultats-là sont publiés, d'autres équipes à travers le monde essaient de reproduire les résultats. Et quand c'est pas reproduit, ben non, c'est quoi? C'est quoi le problème? Et finalement, dans ce cas-là, ça avait été une falsification de résultats.
Mais on s'entend qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu... d'un peu tordu dans la façon de financer les chercheurs également. On les encourage à publier le plus possible. On met beaucoup de pression pour qu'ils mènent des recherches et qu'ils les fassent connaître du grand public par l'entremise de colloques, de congrès, de revues. Et alors, il y a une pression énorme. Et s'ils ne le font pas, ils n'ont pas d'argent.
Oui, et ça, c'est un très bon point aussi. C'est pour ça que de plus en plus, et c'est pas seulement au Québec, là, ou au Canada, ce qu'on regarde maintenant, c'est l'ensemble du projet de recherche. Ne pas se fier uniquement aux publications. Donc, ce qui est, les instructions que les comités de pairs reçoivent, c'est oui, regardez les publications. C'est un peu le passé, la publication, mais aussi beaucoup le futur. Qu'est-ce qui est proposé en termes de recherche? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'ils ont suffisamment de résultats préliminaires? Donc, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est pas seulement la publication, parce que oui, c'est vrai, surtout au cours peut-être des 15 dernières années, on a peut-être mis un peu trop d'emphase sur des publications. Et vraiment, ça met beaucoup de pression dans le système. Donc maintenant, c'est de dire plutôt que la quantité de publications, on doit regarder la qualité de chaque publication, publier dans des journaux d'excellence, là, pas des journaux qui viennent d'être créés, qui n'ont pas d'impact dans le secteur scientifique.
Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec les universités québécoises qui refusent de parler des inconduites scientifiques qui sont commises à l'intérieur de leurs murs par des chercheurs qui sont rattachés à ces universités-là?
Ce n'est pas nécessairement l'université qui refuse. Il y a aussi tout ce qui est relié à la loi d'accès à l'information. Et le chercheur, comme individu, a droit à cette protection-là aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là de lien entre le chercheur et son université.
Oui, mais M. Quirion,
il y a beaucoup
M.
de travail
Quirion
à faire là-dedans là, pour négocier et peut-être avoir des changements à la loi d'accès à l'information dans ce cadre-là aussi.
Là. Mais M. Quirion, là, les directions d'université, est-ce qu'elles ont une responsabilité d'assurer l'honnêteté et l'éthique des travaux qui se déroulent à l'intérieur de leurs murs, oui ou non?
Oui, c'est pour ça qu'on a une conduite responsable en recherche qui est québécoise et qui est fédérale. Mais encore là, il y a une protection aussi pour le citoyen, comme n'importe quel citoyen. Au Québec, il y a quand même des lois d'accès à l'information et tout ça. On doit protéger aussi la vie des citoyens et les chercheurs sont des citoyens comme les autres. Il y a cette ligne-là qui n'est pas claire. Là.
Où arrive l'enjeu de protection des renseignements personnels là-dedans? Là?
Ben, ce qui arrive, c'est que finalement, des fois, il y a des collègues qui ne sont pas aussi gentils qu'on pense là, et qu'il y a de fausses allégations. Il faut faire très attention de ce côté-là là, parce qu'on peut détruire des carrières sur la base de fausses allégations. Donc, il y a énormément de travail, ce que les universités essaient de faire. Et comme à l'Université de Montréal, ils ont maintenant une équipe de 3 personnes pour regarder ça. Donc, je pense qu'ils ont sensibilisé. Mais avant de dire, oui, on lance ça dans le public, là, faut s'assurer que les allégations sont véridiques. Et ça, c'est pas si simple que ça peut en avoir l'air dans certains cas.
C'est vrai qu'on entend dire que le domaine de la recherche, ça peut être assez coupe-gorge.
Ben, c'est sûr que c'est comme un peu n'importe quel secteur. C'est sûr qu'on, dans plusieurs secteurs, c'est pas simple. La compétition est très forte. La compétition est de plus en plus globale, mondiale. Donc, il y a des compétitions à l'intérieur des équipes, à l'intérieur des universités. Et c'est un peu la nature humaine ici aussi. Donc, c'est de former. Je pense que là, nous, on a un rôle de formation en partenariat avec les collèges et les universités pour dire, bien, il y a des choses qui sont pas acceptables. Et la très grande majorité, encore une fois, respecte tout ça. Là.
Oui, oui, oui.
La minorité qui cause des problèmes.
Qu'est-ce que vous dites aux citoyens, là, en terminant, là, qui on en voit passer des recherches là, quasiment tous les jours dans les journaux, sur Internet, M. Quirion. Oui. Puis quand on entend une nouvelle comme celle-là, on se dit, bon, il va-tu falloir que j'aille lire le protocole de recherche puis le contrôle d'éthique qui a été fait autour de cette recherche-là? Tu sais, à un moment donné, veut pas ce genre de d'enquête-là, va susciter le doute, va amener des gens à ne plus faire confiance aux recherches, puis vont se dire, bon, mais là, d'ailleurs, de plus en plus le disent, il y a une recherche qui dit le beurre, c'est bon, après ça, qui dit la margarine, c'est meilleur, puis finalement, tu reviens que c'est le beurre qui est meilleur. Tu sais plus qui croire, tu ne sais plus qui croire.
Oui, et ça, je pense qu'il y a du travail à faire pour nous, les chercheurs, de mieux expliquer la méthode scientifique à la société civile, au commun des mortels, et aussi la formation des journalistes scientifiques là, pour être plus présents. Et l'arrivée de dire, oui, quelqu'un qui publie aujourd'hui A et demain c'est B, ben, peut-être que nous, la méthode scientifique, c'est vraiment la répétition des résultats pour s'assurer qu'en effet, on a réussi une nouvelle façon, peut-être, on a trouvé une nouvelle façon de traiter le cancer du sein. On ne peut pas trouver une nouvelle façon de traiter le cancer du sein à tous les jours. Bien. Donc, on a un peu de sensationnalisme de ce côté-là aussi. Et les universités sont aussi coupables que les autres là, pour dire, oh, il faut faire attention, la méthode scientifique. Donc là, oui, on a ce résultat-là qui semble intéressant, mais ça va prendre peut-être 3-4 ans avant de le prouver, de le démontrer dans d'autres laboratoires qu'en effet, c'est vrai, ce résultat-là est vraiment solide. Et ça, c'est la méthode scientifique. Donc, expliquer la méthode, la façon de faire, je pense que c'est important de le faire dans le futur, un peu plus qu'on l'a fait au cours des dernières années.
Rémi Quirion, je rappelle que vous êtes le scientifique en chef du Québec. En résumé, là, en 10 secondes, ça fait quoi, ça, le scientifique en chef?
Ah, c'est de donner des avis au gouvernement du Québec en recherche et innovation. Et bien sûr, moi, je donne des conseils, des avis, par la suite, les élus décident.
Très bien. Merci pour l'entrevue.
Merci bien.
Au revoir.
Merci bien. À la prochaine.